Vous allez voir ce qu'on vient de vivre était exactement dans la ligne de ce qu'on va partager maintenant. Quand je travaillais à Strasbourg, je travaillais dans une association interconfessionnelle. Mon chef de service était catholique. Un jour, un jeune objecteur qui travaillait avec nous arrive à une réunion, l'air très préoccupé. Et il nous dit, il y a quand même un truc qui m'embête et je ne comprends pas. Le dimanche, quand vous partagez le pain et le vin à l'église, qu'est-ce que vous faites ? Alors, en bonne évangélique, je réponds, nous partageons le pain et le vin qui sont un symbole, un souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Et Gérard, en bon catholique, répond, je prends l'hostie, le pain, le vin, qui sont réellement le corps et le sang du Christ. Et Gérard, Michel de dire, eh ben me voilà toujours pas plus avancé. Et oui, le repas du Seigneur, qui devrait être un point de rencontre, de communion entre les chrétiens, se révèle un lieu de profonde discorde. Des livres entiers ont été écrits sur ce sujet, des disputes passionnées, des disputes théologiques incroyables ont agité les siècles qui nous ont précédés. Alors moi, je ne vais pas prétendre répondre de manière définitive à toutes les questions que soulève cette question de la Sainte Cène. Je vais juste essayer de vous partager ce que je crois avoir compris. Je voulais juste préciser, donc chez les catholiques, on dit « Eucharistie », ça vient du grec « rendre grâce »,« remercier ». Parce qu'on dit que Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Donc dans l'Église catholique, on parle d'Eucharistie. Et chez les protestants, on parle plutôt de Sainte Cène. Donc le mot « cène », ça vient du latin « cena », qui veut dire simplement « le repas du soir ». Voilà, le repas. Voilà, donc c'est pour marquer la différence un peu entre les deux confessions. Alors, que nous dit la Bible sur le repas du Seigneur ? Toute mon enfance, tous les dimanches presque, il y avait la Sainte Cène à l'église et c'était presque toujours le même texte qui était lu. Alors, on va commencer par celui-là. Donc, ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 11, et on commence au verset 23. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Donc dans ce texte, on voit d'abord que c'est un mémorial. C'est un souvenir. Jésus dit, faites ça en souvenir de ce que j'ai fait. Et les évangiles nous rapportent que ce repas que Jésus a pris avec ses disciples, c'était celui de la Pâque. Donc c'est un repas traditionnel où les Juifs mangent l'agneau qui rappelle la sortie d'Égypte et le sang qu'ils ont dû mettre sur les linteaux des portes pour être sauvés de l'ange exterminateur. Et ce repas de Pâque, il était accompagné de... Donc c'était un agneau, des herbes amères, du pain... qui n'avait pas eu le temps de lever, et il y avait aussi du vin. Et tout ça faisait partie du cérémonial du repas de Pâques. Donc ça, vous pouvez lire dans Exode au chapitre 12, les versets 5 à 14, il raconte ça. Et puis, il y a un autre passage dans Exode, au chapitre 24, où Moïse et les anciens d'Israël, après les 10 commandements, montent sur la montagne et où Dieu leur dit qu'il fait alliance avec eux. Et on voit, donc je vais lire au verset 8, donc, ouais. Donc d'abord, il fait On nous dit que Moïse met par écrit toutes les paroles de l'Éternel, et puis il va faire des sacrifices, il recueille la moitié du sang, et il répand l'autre moitié sur l'autel. Voilà. Et puis, les Israélites s'engagent, ils disent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles. » Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant « Ceci est le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ses paroles. » Ensuite, Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 responsables d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds s'étendait comme une plateforme de saphir ayant la pureté du ciel. L'Éternel n'étendit pas la main sur ces notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu, et puis ils mangèrent et burent. Dieu fait alliance avec le peuple à travers ce sang, et il y a un repas. Ils mangent, ils boivent. Donc, la Sainte Cène, c'est aussi ça. C'est le repas qu'on prend ensemble comme signe d'alliance. Donc, dans les évangiles nous rapportent aussi cet épisode. Donc, dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, c'est à peu près toujours pareil. Donc là, on va lire dans Marc. Et donc là, Marc, c'est chapitre 14, versets 22 à 26. S'il y a des gens qui prennent des notes, dans Matthieu, c'est chapitre 26, versets 26 à 29. Et dans Luc, chapitre 22, versets 14 à 20. Jean ne rapporte pas cet épisode, ne rapporte pas ces paroles. Donc Marc, versets 22 à 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit, « Ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Alors la première remarque, c'est que c'est avec ses disciples que Jésus a pris ce repas, pas avec la foule. Le repas du Seigneur est donc en principe réservé à ceux qui font profession de suivre Christ. Dans ces quelques mots, Jésus annonce son retour, puisqu'il parle de, il dit jusqu'à ce que tout soit accompli. Il parle du fruit de la vigne, ça m'a frappé, dans les trois évangiles c'est cité, il dit j'en boirai de nouveau. Donc, en effet, j'ai vérifié, après sa résurrection, les évangiles racontent que Jésus a mangé du poisson et du pain, mais qu'il n'est pas question de vin. Donc, Jésus inaugure par son sang la nouvelle alliance, représentée par la coupe de vin, et il n'en boira plus avant que les effets de cette alliance ne soient accomplis, c'est-à-dire à son retour, lors de l'établissement du royaume. Alors, on voit comment ce signe instauré par Jésus s'inscrit dans toute la tradition de l'Ancien Testament. Sa mort sacrificielle se superpose à la Pâque juive dans une cohérence qui montre la sagesse de Dieu à l'œuvre. En fait, la Sainte Cène, c'est un résumé de l'Évangile. Donc, c'est quelque chose de très positif, de très joyeux. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est simple, c'est rassurant. Malheureusement, la suite du texte apporte une ombre au tableau. Et c'est là que les difficultés commencent et qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de controverses avec la suite. Donc, les versets 27 à 30 comportent un avertissement sévère qui dissuade parfois certains chrétiens de participer à la Sainte Cène, puisqu'il est dit « Celui qui mange et boit indignement mange et boit un jugement contre lui-même. » Oh là là ! Alors, la question, c'est « Est-ce que je suis digne ?» Eh bien, évidemment, la réponse est non. Personne n'est digne. Et du coup, il faudrait faire comme les témoins de Jéhovah qui font la Sainte Cène une fois par an et personne ne l'apprend. Non, bien sûr que ce n'est pas ça. Mauvaise interprétation. Pour comprendre ce texte, il faut vraiment s'intéresser au contexte, à ce qu'il y a avant et après. Donc, on va reprendre le texte de 1 Corinthiens et on va voir de quoi ça parle réellement. Alors, on va prendre le chapitre à partir du verset 17. À partir du verset 17. Et ça montre un peu l'ambiance qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela « prendre le repas du Seigneur ». Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu? Et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Vous voyez, c'est plutôt énergique. Alors ensuite, il y a ce texte qu'on a déjà lu, donc la suite qui institue la Sainte Cène. Et puis juste après, si on saute ensuite au verset donc 31, donc il vient juste de dire « C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. » La suite, c'est « Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. » Ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous. Alors, on voit qu'il est question d'un repas. Donc, on voit que... Déjà, au début de la lettre, Paul accuse les Corinthiens d'avoir des problèmes de division entre eux. Hein. Au chapitre 1, verset 11, on nous dit « Certains disent qu'ils sont pour Paul, d'autres pour Apollos, certains même pour Christ. » Et ces différences s'étalent au grand jour, au moment du repas, au point qu'on voit des gens ivres, tandis que d'autres n'ont rien à manger. C'est vraiment honteux. Donc, on voit aussi qu'ils ne partageaient pas trop. Hein. Chacun ramenait son repas, et puis hop, chacun mangeait dans son coin. Et puis, là au milieu, on célébrait la Sainte Cène pendant le repas. Donc, on comprend que ce n'était vraiment pas à la gloire de Dieu. Et donc là, si on prend cette situation en compte, la phrase qui dit « celui qui mange et boit indignement », en fait, ça veut dire de façon désordonnée, égoïste, sans faire attention aux autres. Le indignement vise la manière dont on partage ce repas. L'égoïsme, le mépris du pauvre pour lequel Jésus a donné son corps et son sang. Donc, mépriser les autres, c'est mépriser le corps du Christ. Jean nous dit en 1 Jean 4, verset 20, « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » C'est cette personne-là qui boit un jugement contre elle-même en participant à la scène indignement. Alors, au milieu de tout ça, il y a le mot... Donc le verset 29, hein, qui est un peu effrayant là, « Celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. » Alors, là, on ne parle plus d'indignement, on parle de discerner le corps. Alors là, on va faire un petit détour par l'histoire et on va prendre un peu en compte l'histoire de l'Église au fil des siècles. Je voudrais tout de suite... préciser que je ne suis pas anti-catholique hein, quand je vais parler là. Alors, d'abord le texte d'Acte 2 qui nous relate la vie de la première communauté. Je n'ai pas besoin de prendre là. Acte 2, verset 42. C'est le début de l'Église à Jérusalem. Dès lors, ils s'attachaient à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Et verset 46. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Donc on entend les mots joie, simplicité de cœur, le partage fraternel sont les marques de cette première vie d'Église. La Sainte Cène est prise durant le repas familial. On nous dit même que c'est tous les jours. Je ne sais pas combien de temps ça a duré comme ça, mais ce qui est sûr, que le 8 novembre 392, l'empereur Théodose a proclamé le christianisme religion officielle de l'Empire romain, en interdisant les autres cultes. Alors à partir de ce moment-là, il a fallu construire des bâtiments pour accueillir le peuple des fidèles, et bien sûr, il devenait très difficile d'organiser des repas en commun. Et donc, le repas du Seigneur s'est déconnecté du repas familial pour devenir un élément de la liturgie. Petit à petit, le rite s'est sacralisé. Et c'est peu à peu que, dans la tête des gens, le pain et le vin sont devenus réellement corps et sang du Christ. À partir du XIIe siècle, on a instauré ça comme dogme, donc la transsubstantiation. Ça veut dire le pain, le vin sont consacrés par le prêtre et deviennent, de façon métaphysique, un peu presque magique, réellement corps et sang du Christ. J'étais dans une messe il n'y a pas très longtemps et j'étais frappée qu'on nous présentait l'hostie en nous disant le corps du Christ. Le corps du Christ. Et je me disais, voilà, ça, ce bout de pain, ça serait le corps du Christ. Voilà, pour moi, c'est difficile à comprendre, quoi. L'Église exigeait aussi que le fidèle vienne à cette Eucharistie dans un état de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'était confessé avant, il était exempt de péché grave et il avait fait un jeûne avant. Alors avant, on demandait depuis le matin ou comme ça. Aujourd'hui, ils disent une heure, un jeûne d'une heure avant de prendre le repas du Seigneur. Donc on voit comment cet acte tellement simple qui est décrit dans la Bible devient peu à peu un rite qui exige d'autres rites pour avoir le droit, pour qu'on ait le droit d'y participer. Ce qui devait exprimer l'unité devient élément d'exclusion, de séparation entre les purs, les bons chrétiens et les autres. Donc, pour un catholique, vraiment, le morceau de pain, c'est le corps du Christ. Et Vatican II, donc, c'est pas vieux, dans les années 60, l'a encore réaffirmé. L'Eucharistie est affirmée comme la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Donc il n'y a pas de messe sans Eucharistie, c'est vraiment le centre de la liturgie, le centre de la vie chrétienne. Quand j'étais étudiante, j'ai été une fois invitée par des amis catholiques à une retraite dans une abbaye, à la Pierre qui vire, et il y a eu un moment d'adoration eucharistique, quoi. Donc les gens étaient à genoux devant l'hostie et ils ont loué Dieu et adoré Dieu pour cette hostie. Donc ça, vraiment, j'en parle un peu avec le sourire, parce que, comme je dis, ça me dépasse, voilà. Mais ça m'empêche que j'ai des très bons amis catholiques, voilà. Et donc, dans cette conception, évidemment, on ne peut mettre le corps du Christ entre toutes les mains, hein, donc toutes les réglementations sur les personnes autorisées ou non à prendre part à l'Eucharistie, et aussi ce qu'il faut faire des restes, hein, de ce qui n'a pas été consommé pendant la cérémonie. C'est très embêtant, s'il reste du corps du Christ à la fin, on le fait quoi avec, hein? Donc, on prend du pain azyme pour éviter les miettes. Ben, vous imaginez, le corps du Christ sur la moquette, ça ne le fait pas, enfin, etc. Alors, j'ai fait des recherches et j'étais stupéfiée de voir le... Enfin, il y a eu des livres entiers, des kilomètres d'écriture sur ce sujet. C'est vraiment un sujet qui a passionné les gens pendant des siècles, hein. Alors, avec Luther, au XVIe siècle, on passe à la consubstantiation. C'est-à-dire que le pain et le vin restent qu'ils sont, mais deviennent quand même en même temps corps et sang du Christ. Donc les deux natures sont présentes dans ces éléments. Et c'est avec Calvin qu'on passe à la présence spirituelle de Jésus, et avec Zwingli à Zurich, qu'apparaît la notion de présence symbolique. Et c'est cette interprétation-là qui a cours chez les évangéliques. Le pain et le vin, ou le jus de raisin, nous rappellent le sacrifice du Christ, mais restent ce qu'ils sont. Quand j'étais gamine, des fois, on allait picorer les restes de la Sainte Seine. Bon, et ce n'était pas bien grave. Voilà. Voilà. Alors voilà qui ôte à la Sainte Seine toute action spécifique. Ce pain et ce vin ne vont pas nous purifier de nos fautes, ni changer notre caractère. Le fait de prendre la Sainte Seine nous permet simplement d'affirmer notre appartenance au corps du Christ. Mais cette appartenance ne découle pas d'un rituel, pas même celui du baptême. Elle découle de la foi en la grâce de l'œuvre de Jésus à la croix. Alors, y a différentes pratiques chez les évangéliques, hein, y a différentes façons de voir ça. Alors, des évangélistes très rigoristes, comme les darbistes, par exemple, on ne peut pas participer à la Sainte-Cène si on n'est pas connu de la communauté. C'est-à-dire, si vous venez en visite dans une communauté où vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas droit à la Sainte-Cène. Ou alors, il faut avoir une lettre de recommandation de la part des anciens de sa propre communauté. Dans beaucoup d'églises, on demande que la personne soit baptisée sur profession de foi pour être admise à la Sainte-Cène. À l'autre extrême, j'étais une fois dans un culte d'une église qui prenait régulièrement la scène au cours d'un culte de famille. Et tous y participaient, même les enfants en bas âge. Comme je m'en étonnais, on m'a répondu que les enfants faisaient partie de la communauté tant qu'ils n'avaient pas pris position personnellement. Et que si un non-croyant était dans la salle et qu'il prenait la Sainte Cène, qu'est-ce qui pouvait lui arriver de pire ? Il est déjà condamné pour l'enfer s'il ne croit pas en Jésus. Alors s'il prend le morceau de pain, ça ne va rien changer. Voilà qui... c'est pas magique, quoi, c'est ça que je veux dire. Alors chez nous, comme dans beaucoup d'églises, la plupart des églises évangéliques, nous pratiquons ce qu'on appelle la scène ouverte. L'accès est libre, sauf en cas de mesure de discipline, ce qui est plutôt rare. Donc chacun est face à sa conscience et choisit lui-même s'il veut participer, sauf les enfants. En général, ils sont à l'école du dimanche à ce moment-là. Et pourtant, nous portons en nous 2000 ans d'histoire de l'Église dans un pays qui a été fortement marqué par le catholicisme. Et nos pratiques témoignent souvent d'une crainte sacrée attachée à la Sainte-Cène. Moi, je viens de région parisienne, donc je ne suis pas alsacienne, mais j'ai découvert un peu ici que les églises luthériennes en Alsace sont bondées le jour du Vendredi Saint. Car il y a une sorte de croyance que participer à la Sainte-Cène ce jour-là efface tous les péchés commis dans l'année écoulée. Ça ressemble un peu au Yom Kippour, le grand pardon chez les Juifs. Dans les églises évangéliques, on a des personnes qui ne se sentent pas autorisées à participer au repas du Seigneur parce qu'elles ont des doutes sur la qualité de leur foi, ou bien elles traînent une culpabilité ou un péché qui n'est pas résolu, ou bien parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas trop le moral, alors elles ne se sentent plus en communion avec Dieu, ou bien elles ont un différend avec un frère ou une sœur de l'Église. Et parfois, c'est un tout petit désaccord. Donc pourtant, d'après le contexte de notre passage, on comprend bien que quand on nous dit de discerner le corps du Christ, c'est pas « Ah oui, il y a Jésus dans le pain là », mais Jésus, il est au milieu de nous. C'est la communauté, le corps du Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc l'avertissement que Paul adresse concerne ceux qui ne vivent pas la communion avec les frères et sœurs, qui les méprisent et les blessent sans se remettre en question. D'ailleurs, il n'est pas question de discerner le sang du Christ, hein. Il est question de discerner le corps. Il n'est pas dit ceux qui ne discernent pas le sang, il est dit ceux qui ne discernent pas le corps. En fait, dans ce texte, il y a comme un glissement de sens entre le symbole qui est le pain et la réalité qui est l'Église. Donc la vraie question qui se pose, c'est la communion. Qu'est-ce que c'est que la communion ? D'ailleurs, on utilise souvent ce mot dans toutes les églises, on dit on prend la communion, voilà, on prend l'Eucharistie, la Sainte-Cène, voilà. En grec, le mot communion, c'est la koinonia. C'est le mot que le Nouveau Testament utilise. Et on va lire un passage dans la première épître de Jean, au chapitre 1. Voilà. Chapitre 1, les versets 3 à 10. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc l'Église, c'est une communauté de gens qui se reconnaissent pécheurs, pas un rassemblement de purs. Jésus est mort pour des pécheurs. Donc le pain, le vin, la communion à sa vie, à ses promesses, sont là pour des pécheurs. Cela signifie que si tu as confié ta vie à Christ, que tu cherches sincèrement à suivre Jésus, si tu reconnais qu'il est présent au milieu de son Église, tu peux participer à la Sainte Cène, même si tout n'est pas réglé dans ta vie. Même si tu luttes encore avec un péché récurrent, Dieu ne va pas te foudroyer sur place parce que tu aurais pris la scène indignement. Il n'y a pas de brevet de sainteté pour prendre la Sainte Cène, pas plus que pour être baptisé. En revanche, ne reste pas seul avec tes problèmes, tes doutes ou ton péché. Autrefois, dans l'Église catholique, il fallait se confesser au prêtre avant de participer à la communion. Rien, dans les textes qu'on a lus, ne permet d'affirmer qu'une telle exigence était présente à l'origine. Par contre, la Bible nous exhorte à avoir le mal en horreur et à confesser nos péchés les uns aux autres. J'ai relu le livre de Dietrich Bonhoeffer de la communauté chrétienne, que je vous recommande, très intéressant. Il explique que le mal nous isole, nous sépare de Dieu et des autres. Il nous enfonce dans la honte et la culpabilité. Une communauté où les membres apprennent à se montrer vulnérables les uns aux autres, où la confession est accueillie dans l'humilité, porte en elle la puissance libératrice du pardon. Je me confesse à un frère ou une sœur digne de confiance, et sa parole qui m'assure du pardon de Dieu devient pour moi comme la parole de Dieu, un rocher où m'appuyer si la culpabilité ou le doute reviennent me hanter. Une telle confession va être une source de vie extraordinaire. Et nous sommes appelés à la vivre de manière spontanée, aussi souvent que nécessaire, sans attendre la prochaine Sainte Cène. Alors ça ne veut pas non plus dire que je vais être intime avec tout le monde dans l'Église. Il s'agit de vivre une communauté saine, spirituelle, où Jésus-Christ, sa parole, son esprit sont au centre, où c'est Jésus-Christ le médiateur entre tous, et non pas une communauté psychique. Ça, c'est le mot qu'emploie Bonhoeffer. Hein. Donc, on pourrait dire une communauté sentimentale, naturelle, hein, où ce sont nos affinités, nos désirs, nos convoitises, nos tentatives de dominer autrui qui sont à la barre. Donc, ceux qui entrent dans l'Église en espérant y trouver une société idéale, fusionnelle, où tout le monde est d'accord et pense la même chose, où rien ne les heurtera, rien ne les décevra, vont au-devant de grandes désillusions. L'unité en Christ n'est pas l'uniformité. Elle comporte le respect de la liberté de l'autre, de son altérité, de ses choix propres. Nous n'avons pas la même histoire, la même éducation, la même sensibilité. David, la semaine dernière, nous a prêché sur les viandes sacrifiées aux idoles. Il a bien montré ça, que ben voilà, chacun est devant sa conscience et il voit les choses autrement. Et on n'a pas à se juger les uns les autres. Donc c'est avec réalisme que nous sommes appelés à construire la communion. Toujours se rappeler qu'on est pécheur. Et pourtant, l'Église est sainte, voulue par Dieu. Et c'est à travers les interactions, l'entraide et l'amour mutuel que la vie de la communauté se déploie et se construit, et non à travers des rituels. Et cette vérité s'expérimente aussi dans les relations inter-Église, même de confessions différentes. Je reprends l'anecdote du début. Cette association où j'ai travaillé, je suis restée très longtemps en lien là-bas. D'abord, j'ai travaillé là et ensuite, on a habité dans une communauté où il n'y avait que des catholiques et des orthodoxes. On était les seuls évangéliques. Et je me souviens de m'être fait la remarque. Mais en fait, on vit une plus grande communion avec ces gens avec qui on vit ou avec ces gens avec qui on travaille qu'avec les chrétiens de l'Église que je vois qu'une fois par semaine. On était dans une grande ville. Et effectivement, les gens, on les voyait que le dimanche, quoi. On n'avait presque pas de contact avec eux le reste de la semaine. Et je me suis dit, ben ouais, c'est pas une histoire d'appartenance religieuse ou c'est pas une histoire de qu'est-ce que je crois sur la Sainte Cène qui va faire la communion. C'est vraiment l'amour, quoi. Voilà, donc en conclusion, le véritable enjeu de la communauté, c'est l'unité, à préserver et à rechercher sans cesse. Dans tous les domaines, il s'agit de vivre la vie de Dieu à travers des relations authentiques, en esprit et en vérité, comme dit Jésus, hein. La foi, l'espérance, l'amour, et non se plier à des rituels religieux ou discuter sans fin des points théologiques controversés. Donc, une phrase pour finir. Donc, la Sainte Cène nous rappelle la mort de Jésus pour nos péchés. Elle nous annonce le pardon de nos fautes et la promesse de son retour et nous engage à l'amour mutuel au sein du corps de Christ. Amen.